Alo? Alo? Cine răspund, pa?
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Parole aux auditeurs, une émission de Radio Capi qui vous permet de prendre la parole et de donner votre point de vue sur les préoccupations quotidiennes et les grands faits marquant l'actualité en RDC. Ce lundi 21 décembre 2009, nous parlons avec vous de la lutte contre la corruption. Plusieurs rencontres se tiennent à Kinshasa dans le cadre de la lutte contre la corruption en RDC. Quelle est la situation de la corruption dans votre milieu? Selon vous, que faut-il faire pour rendre efficace la lutte contre ce fléau qui ronge la société congolaise? Pour en parler, nous avons invité le professeur Albert Moulouma. Il est directeur du Bureau national pour l'éthique professionnelle, une structure du ministère du Travail et Prévoyance sociale. Il est aussi ancien deuxième rapporteur de la commission éthique et lutte contre la corruption pendant la transition. Mesdames, messieurs, voici votre émission et soyez les bienvenus. Encore une fois, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la lutte contre la corruption. Nous allons parler avec le professeur Albert Moulouma. Il est directeur du Bureau national pour l'éthique professionnelle, une structure du ministère du Travail et Prévoyance sociale, mais aussi il a été ancien deuxième rapporteur de la commission d'éthique et de lutte contre la corruption. C'était pendant la période de la transition. Avant que nous puissions accueillir notre invité, nous avons le premier auditeur. Il s'agit de Moïse. Il est en ligne. Il nous appelle de Kalemi, au nord du Katanga. Bonjour Moïse.
Bonjour Madame la journaliste.
Moïse, la lutte contre la corruption, est-ce que vous connaissez des cas de corruption au niveau de Kalemi?
Oui, bon, ici à Kalemi, nous connaissons plusieurs cas de corruption. Que ce soit à l'école, au port, donc partout, si je peux le dire.
Donc la corruption est partout. Et quelle est la situation? Est-ce que vous pouvez essayer de faire un état de lieu un peu? Est-ce que c'est vraiment très profond?
Bon, surtout au niveau de l'école, c'est très profond parce que je vais vous donner un exemple. Il y a un enseignant qui touche par exemple 17 000 francs et puis ce dernier donne très bien son cours, mais parmi ses élèves, il peut y avoir quelqu'un qui n'est pas intelligent mais qui veut passer la classe. Qu'est-ce que ce dernier va faire? Il va voir son professeur et puis donner par exemple 50 dollars. Et cela peut être très difficile à ce professeur-là de réfugier parce que, d'abord, ces sommes d'argent c'est pour ça, ça dépasse même son salaire de direction à l'école. C'est pourquoi la corruption bat son père.
Oui.
Pourquoi, jusque-là, pardon, je vais demander d'abord au gouvernement de régler les salaires, parce que nous voyons que dans notre pays, il y a la discrimination au niveau des salaires. Il y a ceux qui touchent 11 000 dollars, d'autres qui touchent 5 000 francs, vous voyez, madame la journaliste, vraiment, je peux demander à notre gouvernement si ce cas continue, la corruption ne cessera jamais dans notre pays. Donc, selon moi, il faut d'abord régler le salaire.
Oui, Moïse, merci beaucoup d'être intervenu à cette émission. Pour vous, vous pensez qu'il faut d'abord revoir les salaires à la hausse, donc améliorer les conditions salariales des fonctionnaires de l'État, notamment des enseignants, parce que vous avez donné vraiment un exemple au niveau de l'enseignement. Donc pour vous, c'est le gouvernement qui doit faire d'abord le premier pas pour lutter contre la corruption. Merci Moïse d'être intervenu. Vous avez appelé à partir de Kalemie au nord du Katanga. Un autre auditeur du Kasaï occidental, bonjour prophète Mfoutou Mathieu.
Bonjour madame Chantal.
Oui,
moi, c'est prophète Mathieu, comme vous le dites.
Oui, on vous écoute.
En tant qu'analyste social, dans ma chaîne de mort, je vous assure que la corruption est devenu comme un mode de développement en République démocratique du Congo.
C'est un peu trop dire, un mode de développement.
Vraiment, madame, vous la trouvez partout et dans toutes les couches de la population et dans tous les niveaux de la vie.
Oui.
Pour moi, c'est à peu près de 80% de la population qui vivent que de ça.
Que de la corruption.
Aussi, et du fait que, même dans les systèmes éducationnels, c'est-à-dire dans les établissements scolaires, nous envoyons nos enfants pour étudier, c'est là où elle bat son pain.
Mm-hmm.
Nous ne savons pas quel sera l'avenir des enfants qui seront les cadres de demain. La corruption est pratiquée même à l'œil nu au Congo. Nous l'avons tous vécu au temps des élections qui se déroulaient en 2006 ici au Congo.
Oui, si vous voulez, monsieur Mfoutou Mathieu.
Que nous avons voté aujourd'hui.
Oui, monsieur Mfoutou Mathieu.
Ah, oui, madame.
Oui, je voudrais vous demander, selon vous, quelles sont les causes, quelles en sont les causes de cette corruption qui gangrène notre société?
Moi, je trouve que la justice ne fait pas son travail. Ah, donc, je vais vous dire tout simplement, madame, vous avez une question à votre invité.
Mm-hmm.
En matière juridique, est-il permis de corrompre la population pour être élu en qualité d'un président de la République, d'un député ou d'un gouverneur de province? De deux, quelle est la stratégie prise qui peut effacer définitivement cette classe de corrompus en RDC?
Oui.
C'est possible. Merci, madame.
Oui, donc vous pensez que vous avez des questions à poser pour savoir comment lutter contre la corruption, mais vous-même,
oui.
Prophète.
Vous vous rappelez,
prophète.
Oui.
Oui.
Je respecte beaucoup en matière juridique.
On a compris.
Pour la population, pour être
s'il vous plaît, monsieur Mpoutou.
Ou d'un député ou que d'un autre.
Oui, monsieur Mpoutou, on a compris, vous avez posé des questions. Notre invité, dès qu'il sera en studio, il pourra vous répondre. Mais entre-temps, monsieur Mpoutou, quelles sont les stratégies que vous-même, quand même, vous êtes dans une église, vous êtes avec les gens autour de vous, quelles sont les stratégies que vous-même, dans votre milieu, vous avez mis en place pour combattre la corruption? Mais comment? Quelles sont les propositions que vous faites?
Les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça.
Merci beaucoup, Mathieu Mpoutou, pour avoir participé à cette émission. Vous avez posé deux questions concernant la lutte contre la corruption. Et dès que notre invité sera sur place, nous pourrons lui reposer vos deux questions. En attendant, il est en train de venir, mais je pense qu'il est tombé dans les embouteillages de Kinshasa. Comme vous savez, bientôt, c'est la fête, les fêtes de fin d'année. Donc, tout le monde est sens dessus pour pouvoir faire quelque chose et bien fêter ces fêtes de fin d'année. Entre-temps, nous avons notre auditeur, il s'appelle Joël, il nous appelle de Mbandaka, nous allons le prendre tout juste après ceci.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Bonjour Joël.
Bonjour madame.
Oui, vous nous appelez de Mbandaka, c'est à l'Équateur, hein, et à Mbandaka. Vous nous suivez sur la fréquence 103.0, c'est ça?
Oui.
Oui, Joël, on vous écoute.
Bon, je voudrais d'abord poser une question à l'invité et puis parler de la corruption en Mbandaka.
Oui, on va prendre pour vous, on va noter votre question. Comme ça, dès que l'invité est dans notre studio, nous allons lui poser la question pour un moment de classe.
Oui, je pose la question à l'invité pour dire comment chercher à mettre fin à la corruption si on ne commence pas à le faire au niveau de la faculté de droit ou en forme de juriste.
Ah, donc vous pensez que vous avez des témoignages qu'au niveau de la faculté de droit, il y a aussi la corruption. Est-ce que vous pouvez aussi nous partager ce que vous avez vécu?
Oui, lors de l'année académique 2008-2009,
mm-hmm.
il y a toute une promotion des deuxièmes gradués qui se retrouvent en troisième gradué au moment où je vous parle.
Mm-hmm.
Alors, tout le monde se pose la question. tous ces étudiants qui étaient intelligents ont mérité cette réussite.
Mm-hmm.
C'est ça la question qu'on se pose.
Oui, ça c'est vraiment un témoignage que vous nous avez donné. Mais vous quand même, Joël, au niveau de Mbandaka, dans votre quartier, dans votre rue, même dans votre maison, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour lutter contre la corruption?
Ce que je peux proposer pour lutter contre la corruption, il faut la réforme de la justice. Si on a la corruption, si la corruption est devenue surtout en Mbandaka, en monnaie courante, parce que la justice ne fait pas son travail.
Mm-hmm.
Et la corruption quitte maintenant les sociales et affecte même la vie religieuse, et c'est ce qui est grave. Je peux vous parler d'un cas concret. Dans ma famille, nous avons un diacre qui était venu au niveau de la famille solliciter la cotisation pour qu'il parvienne à corrompre les prêtres parce qu'il y avait l'archevêque, parce qu'il y avait des rapports concernant son ordination sacerdotale. Alors, il fallait le faire bien avant que ces rapports soient parvenus à l'archevêque. Malheureusement, la famille n'a pas pu accepter. Vous voyez une telle chose.
On voit à quel niveau, même si on a envie d'occuper certains postes, on doit corrompre, même au niveau de l'église. Vraiment, votre témoignage est assez poignant, Joël, c'est assez difficile. Donc, on comprend à quel niveau la corruption est entrée dans tous les niveaux dans notre pays. Merci beaucoup, Joël, d'avoir participé à cette émission et les propositions que vous avez faites, bien sûr, pour lutter contre la corruption. Sans oublier que vous avez posé une question dès que notre invité sera là, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la corruption. D'ailleurs, on vient de me signaler par la réalisation que déjà notre invité est en ligne. Il s'agit du professeur Albert Mulumba. Bonjour, professeur. Professeur?
Oui, madame.
Oui, bonjour, professeur. En fait, vous êtes directeur du Bureau national pour l'éthique professionnelle, une structure du ministère du Travail et Prévoyance sociale, et vous êtes aussi deuxième rapporteur de la commission d'éthique de lutte contre la corruption. C'était pendant la période de transition. Nous avons déjà commencé notre émission. Nous avons eu plusieurs auditeurs qui posent des questions assez difficiles pour savoir comment est-ce qu'on doit lutter contre la corruption. Mais avant que je puisse vous restituer les questions de nos auditeurs, selon vous, quel est le niveau qu'a atteint la corruption dans notre pays?
Oui, madame, merci pour l'invitation à la radio Capi. Merci beaucoup. Ce n'est pas la première fois que j'interviens pour cette question.
Ah, vous êtes un habitué.
Oh oui, madame, le niveau que notre pays a atteint, donc la corruption atteint au niveau de notre pays est quand même déplorable parce que à tous les niveaux, à toutes les catégories de gens, on sent, n'est-ce pas, l'odeur de la corruption. Donc la corruption atteint tout le monde, tout le corps social. Et je ne veux pas dire que la corruption est devenue un peu une préoccupation principale des Congolais, mais je dirais même que c'est déplorable. Déplorable parce que c'est le corps social qui est touché, c'est pratiquement à tous les niveaux.
Et selon vous, quelles en sont les causes?
Ben, écoutez, madame, les causes sont plus nombreuses. Il y a des causes liées aux conditions de travail, il y a des causes liées à la vie sociale même, il y a des causes culturelles. Je peux même dire qu'il y a des causes aussi institutionnelles. Alors, toutes ces causes-là, il faudra décortiquer un peu pour voir comment arriver à résoudre toutes ces questions-là.
Oui. Et ces derniers temps, par exemple la semaine dernière, il y a eu plusieurs rencontres qui se sont tenues à Kinshasa dans le cadre de la lutte contre la corruption. Est-ce que vous pensez que ces forums peuvent changer quelque chose?
Madame, j'étais partie prenante dans ces forums en tant qu'expert. Et je crois que c'est une indication importante quand même pour ces rencontres.
Mm-hmm.
C'est la première fois dans notre pays où nous sommes arrivés à réunir toutes les couches de plus de 400 délégués venant de tous les coins du pays. Je crois que c'est quelque chose qui dit beaucoup.
Mmh. Et surtout que la rencontre qui s'est tenue au Palais du Peuple a été initiée par le gouvernement. Est-ce que vous pensez que c'est un signal assez fort du gouvernement dans la lutte contre la corruption, ou bien ce sera des résolutions et des recommandations que nous avons l'habitude d'avoir à la fin des rencontres?
Nous sommes intervenus même au moment de ce forum pour dire que c'est pas la première fois qu'il y a ces rencontres, mais la spécificité du forum, c'est que c'est pour la toute première fois. J'ai appelé même ça la conférence nationale sur la corruption. J'ai appelé ça. Je voulais faire un peu une sorte de similitude avec la conférence nationale souveraine. Mais madame, je veux dire que il faut commencer quelque part.
Mm-hmm.
C'est pas du tout mauvais lorsque le gouvernement convoque, parce qu'en fait, c'est le gouvernement qui est l'élément moteur, c'est le gouvernement qui doit donner l'orientation. C'est pas du tout mauvais. Je crois que l'organisation d'un tel forum convoqué par le gouvernement, c'est pas du tout mauvais. Il faut commencer. Mais maintenant, au niveau d'application des résolutions, c'est là où on doit très faire attention, parce que le gouvernement ne doit pas être jugé parti, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Il y a la société civile qui doit s'approprier de ces résolutions. Et nous avons suivi au cours des forums l'exemple du Bénin. Le Bénin a organisé aussi un tel forum, mais à l'issue de ce forum, ils ont créé une institution de lutte contre la corruption.
Mm-hmm.
Mais qui est totalement indépendante du gouvernement et qui, sur le plan de gestion des ressources humaines, sur le plan de gestion des ressources financières, matérielles, c'est une institution qui est autonome,
mm-hmm.
mais qui est un apport important pour le gouvernement, parce que lorsque l'institution qui lutte contre la corruption est dépendante du gouvernement, vous comprenez, des injonctions qui doivent venir par-ci par-là,
mm-hmm.
il faut laisser cette institution indépendante.
Oui, professeur, il y a eu un auditeur qui nous a appelé de Kalanga, il s'agit de Mathieu Mputu, il voudrait savoir, pour lui, il dit qu'il a constaté qu'il y avait corruption pendant l'organisation des élections législatives et présidentielles. Il voudrait savoir, est-ce qu'il est permis de pouvoir corrompre pendant ces élections?
Je ne dois pas confirmer cet argumentaire. Il faut avoir des preuves tangibles, parce que moi, je suis professeur d'université. Pour confirmer qu'il y a eu élection, il y a eu corruption, il va falloir que j'ai des preuves. Mais les soupçons ont été faits dans ce sens-là.
Mm-hmm.
Mais de toutes les façons, ce qu'il faut faire dans les prochaines élections, il faut que l'institution qui lutte contre la corruption, parce que il faut une certaine transparence. L'institution de lutte contre la corruption doit aussi arriver à établir ce qu'on appelle un fichier d'intégrité pour tout celui qui veut poser une candidature dans n'importe quel poste, député national, et même aux législations, donc aux élections locales et tout ça régional. Il faut un fichier d'intégrité qui doit être réalisé au niveau de la commission ou de l'institution qui s'occupe de lutte contre la corruption, c'est de cette façon-là qu'on peut voir la moralité de celui qui veut briguer un poste à tous les niveaux, tout ça, parce que lorsqu'il n'y a pas affiché de cette façon-là, et nous risquerons d'avoir toujours des bois morts qui vont revenir, qui vont diriger le pays avec les manies qui sont mauvaises, et ce sera toujours la pauvreté qui va continuer dans le pays.
Oui, une deuxième question, il s'agissait d'un auditeur qui nous appelait de Mbandaka, Joël, lui voudrait savoir, il a dit qu'il avait constaté qu'il y a une corruption au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Il a donné même un exemple en disant qu'il y a eu une faculté où tous les étudiants sont passés d'une promotion à une autre. Et il voudrait savoir comment mettre fin à la corruption dans les instituts supérieurs, surtout dans une faculté de droit.
Oui. Et madame, je disais tout à l'heure que la corruption, c'est pas... sont des inversions qui ont atteint tout le corps social. L'enseignement supérieur, que ce soit l'enseignement primaire et scolaire, à tous les niveaux, constitue un des maillots du système social. Donc, l'enseignement n'est pas... Je suis moi-même professeur d'université. Je ne me dis pas que je suis dans le maître d'une certaine sainteté. Il est vrai que même au niveau de l'université, la corruption existe. Mais alors, comment mettre fin? Là, je crois que c'est la préoccupation majeure. C'est une question peut-être de clôture, de voie de moyens que nous devons dégager ensemble.
Oui.
Là, c'est une question que nous allons essayer un peu de voir. Peut-être
oui.
La dernière question que vous allez me poser.
Oui.
Nous allons faire des propositions
oui.
concrètes.
Professeur, hein, vous restez avec nous. Nous allons prendre dans quelques instants Deke qui nous appelle de Kinshasa et aussi Eric de Goma.
Vous êtes au centre de toutes les questions. Ils sont la solution possible à vos problèmes. Radio Okapi réfléchit avec vous sur la solution. En direct, avec toute l'équipe de Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs. Parlez, nous transmettons. Proposez, nous discutons. Parole aux auditeurs. De lundi à vendredi à 11h et mercredi à 10h, heure de Kinshasa. Prenez la parole et nous vous écoutons. C'est sur Radio Okapi.
Vous suivez Radio Capi dans son émission Parole aux auditeurs. Et aujourd'hui, ce lundi 21 décembre 2009, nous parlons avec vous de la lutte contre la corruption. Nous avons déjà Deke qui est en ligne. Il nous appelle d'ici de Kinshasa. Bonjour Deke.
Bonjour madame, bonjour à tous nos fidèles auditeurs de la Radio Capi.
Oui, selon vous, quelle est la situation de la corruption dans votre milieu?
Bon, je dois dire que la corruption, c'est devenu la deuxième nature des Congolais. Et cela, ça touche tous les secteurs de la vie nationale.
Mm-hmm.
Et je donne avec beaucoup plus de précision les secteurs dans lesquels moi je me retrouve, c'est-à-dire de l'enseignement supérieur universitaire. C'est un fléau qui gangrène tout notre système. Et
mm-hmm.
ça va de l'enseignement, d'abord de l'inscription de l'étudiant jusqu'à aux enseignements et au niveau des diplômes que nous donnons aux étudiants, tout le système est gangréné par la corruption,
mm-hmm.
ce qui fait que la qualité de l'enseignement, la qualité d'étudiants que nous faisons sortir de nos universités laisse à désirer.
Oui. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour rendre plus efficace la lutte contre ce fléau?
Bon, moi, je pense qu'il faudra que d'abord au niveau du gouvernement qu'on puisse donner l'impulsion. Et qu'on sente qu'au niveau de l'État, les gens ont pris un engagement ferme pour lutter contre la corruption. Et pour que cela puisse être palpable, il faut qu'on puisse sanctionner positivement ou négativement les personnes, positivement pour les gens qui luttent contre la corruption et négativement les gens qui tombent dans le coup de la corruption.
Mm-hmm.
Parce que vous comprenez que dans ce pays, toutes les personnes qui dénoncent le mal, qui dénoncent la corruption, font l'objet de menaces et de représailles. Moi-même qui vous parle, je suis victime de cela, ça va faire maintenant deux ans. Mais par contre, ceux qui volent, ceux qui détournent,
Et ils ne sont pas inquiétés.
Quand vous dites que vous avez été victime, est-ce que vous pouvez nous donner votre témoignage, partager avec nous?
Le témoignage, c'est que les comités, les membres du comité de gestion qui a précédé l'actuel comité de gestion de l'Université pédagogique nationale par la personne du professeur Irumu, avait détourné les salaires de personnel de l'Université pédagogique nationale. Et pour ça, nous avons lutté pour qu'on puisse nous restituer cet argent. Et au lieu que, on puisse nous protéger, nous, mais nous avons été l'objet de représailles, malgré le fait que ce comité de gestion était parti. Mais nous avons été menacés dans notre travail, et même moi qui avais mon cybercafé sur le campus de l'université, j'ai été obligé, on m'a chassé de ce cyber, comme quoi moi je serais d'un parti politique de l'opposition, et voilà comment on traite les gens qui luttent contre la corruption dans ce pays.
Mais si vous étiez demandé de faire quand même certaines propositions, à part que le gouvernement doit s'impliquer, donner l'impulsion, est-ce que vous-même dans votre milieu, comment est-ce que vous pouvez donner quelques propositions? Par exemple, encourager ceux qui ont la volonté de dénoncer les personnes qui sont en train de corrompre.
Oui, en tout cas, de ce point de vue-là, nous ne cessons d'encourager toutes les personnes qui voient les choses dans le bon. Parce que, madame, ce qui se passe dans notre pays, et particulièrement ce qui se passe dans l'enseignement, si on ne fait pas un effort dans ce sens-là, je vous assure que ne soyez pas étonnés que le petit pays dans l'Afrique puisse venir nous diriger un jour, parce qu'on aura des diplômés, bien sûr, des gens qui ont la licence, des gens qui ont la thèse de doctorat, mais dans leur tête, ils n'ont rien.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et surtout d'avoir donné vos avis, votre contribution, votre apport dans la lutte contre la corruption. Bonjour Eri.
Bonjour, maman.
Oui, Eric, vous nous appelez de Goma, dans le Nord Kivu et à Goma. Vous nous suivez, j'ai bonne mémoire, sur 105.12.
Oui.
Mm-hmm. On vous écoute, Eric.
En ce qui concerne la corruption, j'ai été informé des travaux qui se sont tenus à 65 ans pour vouloir réunir les acteurs politiques et nos dirigeants afin qu'ils puissent ensemble trouver une autopsie ici pour chercher certaines pistes de solutions, mais j'ai été aussi touché du fait que nos dirigeants, les gouverneurs, le président des assemblées provinciales, les présidents des assemblées provinciales, ne se sont pas présentés à ces travaux pour qu'ensemble puissent trouver des solutions. Et cela, à mon humble avis, c'est un trait des deux pour lutter contre la corruption, ce qui est devenu vraiment un véritable fléau dans notre pays.
Mmh.
Et pour un peu parler à ce qui est de notre région proprement, et nous voyons dans certains tribunaux, pas dans certains, mais dans nos tribunaux ici, le parti général, les gens qui sont passés à lire les droits, une fois le dossier est inscrit au parquet, ils ne veulent pas tenir compte de ce qu'ils peuvent dire comme des droits, ils se basent plutôt à ces gens-là qui ont des pognons, les gens qui accusent abusivement les gens. Nous prenons d'abord l'exemple il y a un groupe de gens ici à Goma qui peut à un certain moment se réveiller un bon matin et dit telle parcelle m'appartient, il instruit comme ça le dossier au parti, parce qu'il a un procureur ami, un procureur frère, un magistrat, cousin de l'église, comme ça, ils se conviennent. Le lendemain, vous êtes surpris dans la parcelle, on vous dit ces parcelles appartenaient à une telle personne. Mais là, vous imaginez, comment est-ce que les gens qui sont appelés à faire des droits à dire la vérité dans son vrai sens, c'est un peu maintenant qu'ils contournent la vérité. En tout cas, c'est vraiment un fléau que le gouvernement peut faire en sorte que ne soit pas en train de prendre de l'ampleur.
Merci beaucoup, Eri, pour votre constat que vous avez fait à Goma. C'est un commentaire que vous avez donné. Hein. Vous avez fait même un témoignage concernant la corruption et aussi la corruption dans la justice. Mais Eri, avant de nous quitter, avant de nous séparer, est-ce que vous pouvez nous donner certaines propositions dans votre milieu, dans votre quartier? Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour essayer de lutter contre la corruption?
Moi, je crois que, parce qu'il est suivi, mon prédécesseur, c'est cet auditeur qui a dit d'abord qu'il faut que le gouvernement s'implique et à ce que la solution soit trouvée. Moi, je crois que c'est non. Parce que si c'était au gouvernement français en fait de tenir compte, le gouvernement aussi, à son tour, ne pouvait pas boycotter ces travaux qui, n'est-ce pas, pouvaient se tenir à quelque chose. Mais moi, je dis ceci, que ce qui est important, beaucoup plus, c'est d'abord la conscience. Les gens qui sont appelés à nous diriger, nous doivent d'abord comprendre que la corruption, c'est tellement, il faut les combattre. Une fois cela est mis en considération, je crois que c'est un petit pas, mais des géants. Prendre les gens, une fois sans surpris, les conditions, leur culpabilité est établie de ce qu'il a commis la corruption, on doit assurément les punir. Je crois qu'avec ces deux propositions que moi je propose, si on était en train d'en tenir compte, la corruption ne pouvait pas être plus en train de prendre de l'ampleur comme c'est le cas aujourd'hui.
Bonne journée, Eri Agoma. Encore une fois, merci d'avoir participé à cette émission. Notre invité, il s'agit du professeur Albert Mulumba. Professeur, vous avez suivi nos intervenants.
Oui, je l'ai suivi.
Oui, une réaction par rapport à cela.
Oh, pas de bonnes interventions. Il y a quelqu'un qui a parlé de l'enseignement supérieur. Effectivement, l'enseignement supérieur, c'est encore très important dans le pays parce que nous formons des hauts cadres, le futur cadre du pays. Il faut que ce cadre soit formé conformément à une certaine déontologie, à un certain code de conduite. Lorsque, au niveau de l'enseignement supérieur ou à tous les niveaux de l'enseignement, le futur cadre sont mal formés et que la corruption constitue la seconde nature, là, c'est vraiment l'avenir du pays que nous allons hypothéquer. Au niveau de la justice, la même chose, parce que la justice est un organe de régulation. La justice est un organe qui doit créer une certaine régularité sociale. Lorsque, au niveau de la justice, il se crée des problèmes de corruption comme nous vivons maintenant, je crois que là, ça frise vraiment l'avenir, ça hypothèque l'avenir du pays.
Oui. Professeur, par rapport à ce qu'a dit Eric, il faudrait un retour de la confiance. Quelles sont les bases qu'il faudrait lancer pour qu'il y ait retour de la confiance?
La confiance ou la conscience?
La conscience. Confiance, là, parler de conscience. Oui. On dit que les gens, les habitants n'ont plus confiance, en fait, en la justice.
Oui, c'est ça le problème. C'est un problème sérieux parce que il faudra que les autorités qui animent donc cet organe judiciaire à tous les niveaux puissent vraiment essayer un peu de serrer, de voir, de préconiser des mesures pour éviter ce que nous voyons. Il y a ce procès qui sont prononcés. Ce procès ne répond pas aux normes de l'égalité, tout ça. Alors, si la justice ne répond pas certaines normes, là, c'est vraiment le devenir du pays que nous sommes en train d'en
oui,
donc, la conscience
oui.
doit venir dans la mesure où, lorsque tout le monde prend conscience, lorsque tout le monde essaie un peu de répondre aux préoccupations même d'un petit peuple, celui qui a droit, il a droit, celui qui n'a pas droit, il n'a pas droit. Je crois qu'à ce moment-là, la confiance est revenue.
Oui, nous allons prendre une autre série d'auditeurs, mais avant de prendre le docteur Richard qui est à Kinshasa ici, nous voulions savoir, vous êtes aussi, vous avez dit que vous avez participé à ce forum donc pour la lutte contre la corruption. Eri a souligné qu'il n'y avait pas assez d'autorités pour montrer la volonté de pouvoir, la présence de certaines autorités pour montrer la volonté de pouvoir lutter contre la corruption. Est-ce que vous pensez que leur présence aurait été quelque chose d'assez fort?
Bon, je crois qu'il faut une certaine mise au point. Il
y avait au niveau des ministères tous leurs représentants, parce que le secrétaire général de tous les ministères avait assisté à ce forum. Mm-hmm. Au niveau des provinces aussi, chaque province avait délégué une équipe importante. Alors, nous avons déploré le fait que le forum était sous les auspices, sous les hautes auspices du président de la République, et le premier ministre aussi était annoncé, et nous avons déploré le fait que, bon, normalement, tout le gouvernement devait être impliqué, et au lieu, n'est-ce pas, d'envoyer des représentants ou des conseillers, tout ça. Et de cette façon-là, là, c'est à déplorer. Mais sinon, je crois que c'est le gouvernement qui a eu l'impulsion. C'est le conseil du gouvernement qui avait convoqué, sous l'instigation du président de la République, et même à la clôture, le vice-premier ministre Bongeli a bien souligné que c'est l'appropriation, donc le gouvernement va s'approprier de toutes ces résolutions. Je crois qu'il n'y a pas à négliger, parce que tout ce que nous avons fait comme résolution sera envoyé donc au niveau du gouvernement pour que le gouvernement puisse entériner et préconiser des décisions appropriées.
Oui.
Par exemple, nous avons pris une décision de créer la cour. La cour, sur le plan de sanctions à donner au niveau de la justice, il faut une cour appropriée qui nous fasse que s'occuper de la corruption, de la lutte contre la corruption. Et puis il faut aussi créer un organe, une agence de lutte contre la corruption. Donc ça, c'est très important.
Un organe qui sera, on l'espère, indépendant. Merci beaucoup, professeur.
Il faut
notre...
une volonté politique accrue.
Oui.
S'il n'y a pas la volonté politique accrue, tout ce que nous avons fait, ça sera gâché.
Oui. Professeur, nous prenons tout de suite là une autre série d'auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Bonjour, docteur Richard.
Madame, bonjour à tous les auditeurs.
Oui, docteur Richard, vous appelez d'ici de Kinshasa, on vous écoute.
Oui, je décide le professeur parce qu'il a parlé dans sa conclusion de la volonté politique. Ceci, mon propos, je vais l'axer sur deux points. Le premier point, les origines de la corruption au Congo. Et deuxièmement, je vais parler de la paix. Alors, pour les origines, je me souviens avoir posé dans ma jeunesse à Moana, avec un ancien de la table ronde, le seul Dominique Mubanga, que je salue la mémoire, parce que c'est un monsieur de probité morale irréprochable. Et ce monsieur, de son vivant, m'a dit qu'ils sont passés tous en Belgique dans les hommes politiques congolais, unis. Ils sont rentrés désunis parce qu'il y a eu le jeu de corruption. Voilà. Alors maintenant, regardons successivement tous les pouvoirs qui sont succédés au Congo. À l'époque de Kassabougou, on parlait de l'article 15. À l'époque de Mobutu, c'était Mathieu Sabana et Motona Mota Bongisa. Et actuellement, les politiciens véreux parlent de Bongisa Chantier. Voilà. Donc, les hommes politiques sont en majorité responsables de la corruption. Alors, en ce qui concerne de la paix, vous savez que la paix est gangréné par des retenues non expliquées que les comptables réalisent. Nous avons saisi le syndicat des médecins et l'ordre de médecins pour leur demander de regarder cette chose. Parce qu'un médecin qui laisse un comptable lui retirer 100 francs, 200 francs ou 500 francs n'est plus dans la probité morale.
Oui.
Il laisse. Allez-y.
Docteur Richard, et quelles sont les propositions que vous faites pour lutter contre cette corruption?
Moi, je suis pour l'ancien président Jerry Rawlings. C'est la peine de mort, surtout.
Merci beaucoup, docteur Richard, pour votre proposition. Avec la peine de mort, nous voyons que ce sera... C'est très difficile et très rude, hein, mais c'est votre proposition par rapport à la lutte contre la corruption. Il y a Adrien qui est à Ilebo. Bonjour, Adrien.
Oui, bonjour, madame.
Adrien, on vous écoute.
Oui, je pense que j'aimerais d'abord rebondir sur ce que le professeur a dit pour la création d'un organe de lutte contre la corruption. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette marche-là. Moi, je propose qu'il faut renforcer vraiment l'appareil judiciaire congolais, c'est-à-dire quoi, qu'il faut doter vraiment beaucoup de moyens à cet appareil. Il faut laisser vraiment le juge indépendant pour voir comment est-ce qu'il faut réprimander, il faut sanctionner vraiment tous ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que la corruption au Congo, je ne voudrais pas revenir sur ce que les 18 députés de l'AMP qui étaient retirés pour ceux qui ont considéré que la corruption est devenue un sport national, mais j'aimerais dire tout simplement que la corruption au Congo est devenue vraiment monnaie courante et un fléau.
Adrien, alors quelle proposition? Vous êtes contre la création d'un organe de lutte contre la corruption? Vous voulez qu'on puisse renforcer la justice, mais comment cela?
Oui, c'est ce que je vous ai dit, en dotant vraiment l'appareil judiciaire avec beaucoup de moyens et en laissant vraiment le juge libre. J'aimerais vous donner un exemple de la République sud-africaine, l'affaire qui s'était passée entre l'ancien président Thabo Mbeki et son vice-président Jacob Zuma, donc l'actuel président. Vous vous rendez compte que dans cette affaire-là, si la justice sud-africaine n'était pas vraiment indépendante, ça laisse compliquer. Donc, c'est la raison pour laquelle je voudrais que le juge soit réellement indépendant pour voir comment est-ce qu'il faut sanctionner tous ces cas-là. Sinon, ça sera vraiment du mal en pis. Il y a ceux-là qui pensent que c'est le monde politique qui favorise tout ça. Mais j'aimerais vous donner un exemple. C'est vrai, aujourd'hui, le monde politique est le seul monde le mieux payé. Mais lorsque vous rendez compte, ceux-là qui sont censés bien payer, ce sont ceux-là même qui se laissent encore corrompre. Le cas des 18 députés, donc des 13 députés, vous vous en souvenez? C'est pour vous dire que la corruption est devenue, même sur place ici à Ilebo, ça c'est vraiment c'est quelque chose de
Merci beaucoup à Adrien pour votre témoignage. Pour vous, vous pensez qu'il ne faudrait pas mettre sur place un organe de lutte contre la corruption, mais il faut plutôt renforcer la justice. Notre auditeur, il s'agit de Franck, qui nous appelle d'Autriche. Bonjour Franck.
Bonjour Madame Marie-Chantal.
Oui Franck, on vous écoute par rapport à la lutte contre la corruption.
Nous devons tous reconnaître que la corruption au Congo est devenue comme un mode de vie. C'est un modus vivendi. On a évoqué des raisons pour lesquelles les gens se font corrompre. Moi, je crois que une des premières raisons, il faut réanalyser la situation sociale. J'aimerais évoquer un cas concret. Je crois que aucun papa ou bien aucune maman ne pourrait considérer son enfant de gourmand s'il n'arrive jamais à donner à cet enfant la quantité de la nourriture suffisante dont l'enfant a besoin pour sa croissance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on n'arrive pas d'abord à combattre les inégalités au niveau de la politique salariale, dans la mesure où il y a des gens qui touchent plus de 5000 dollars avec autant d'avantages et autres faits, alors que la plupart des citoyens n'ont même pas accès à un salaire de plus de 100 dollars, je crois que tout ce que nous sommes en train de nous dire là, ça resterait seulement des simples slogans de très bonnes intentions. Pour moi, je trouve que le problème, c'est d'abord du côté congolais, puis du côté du gouvernement congolais. Il faut que le Congolais arrive à comprendre que quand un Congolais se fait corrompre, il est en train de détruire la stabilité de la société congolaise. Et que notre gouvernement, s'il n'arrive pas à repenser les conditions sociales des citoyens congolais, donc on parlerait, on organiserait des débats ici, mais ça ne donnerait rien. Mm-hmm. Quand on dit qu'il y a le principe de la tolérance zéro, c'est bien, mais comment vous allez réagir si, par exemple, un mandataire public arrivait à détourner 10 millions de dollars américains et qu'on lui demandait seulement de passer 2 mois ou 3 mois en prison? Ça ne va rien ramener. Je crois qu'à ce niveau-là, il faut qu'on arrive aussi à réhabiliter la commission des biens mal acquis. Si quelqu'un détourne, il faut qu'il arrive à rembourser ce qu'il a détourné. S'il s'était acheté des maisons, des voitures, il faut qu'on arrive à saisir tout cela. Puis, il faut qu'il y ait aussi des commissions de suivi pour tout ça. Sinon, on va organiser des débats. On dit que les gens ne sont pas, les gens sont payés, c'est pourquoi c'est laisse corrompre. Mais pourquoi on doit d'abord laisser autant d'inégalités que les gens gagnent 6 000 dollars? Pourquoi les professeurs d'université, pourquoi les magistrats, pourquoi les médecins,
oui,
ne peut pas avoir le fisc droit à $300 le mois. Mm-hmm. Pourquoi?
Merci beaucoup, Franck.
C'est par là qu'il faut commencer.
Oui, beaucoup.
Le problème, c'est plus d'abord du côté des dirigeants. Des
oui.
dirigeants.
Oui, Franck.
Les gens doivent d'abord repenser les conditions sociales des
Franck.
Citoyens.
Franck.
Et se donne la part des lions.
Oui, Franck, on vous a compris, Franck, donc pour vous, vous pensez qu'il faudrait, Franck, en fait, pour vous, vous pensez qu'il faudrait revoir hein, la politique salariale suite aux inégalités, et que ce serait même l'une des raisons pour lesquelles il y a la corruption, et vous, vous pensez qu'il faudrait une reprise de conscience hein, des Congolais en vue de lutter contre cette corruption. Nous allons prendre notre auditeur, le dernier de cette série, avant de revenir au professeur Albert Moulouma, qui est notre invité. Il s'agit de Roger. Roger, bonjour.
Allô?
Oui, Roger.
Oui.
Oui, Roger, on vous écoute. Que faut-il faire pour lutter contre la corruption?
Bonjour, madame. Le débat très intéressant sur la corruption. Je voudrais intervenir. Hein.
Mm-hmm. On vous écoute.
Voilà. Je crois que la structure qui est mise en place à l'égard du président de la République est à saluer, une très bonne chose. Maintenant, il faudra passer à l'application de tout ce qui a été pris comme application qui n'est pas publiée. À mon avis, il y a à boire à manger dans cette affaire de corruption. La corruption, comme on l'a dit, comme les autres ont dit, est un phénomène presque international, il est même naturel. L'homme étant considéré comme un animal, lorsqu'il n'est pas encadré, hein, il se livre à la corruption, c'est-à-dire à tout ce qui est mal. C'est ce que nous appelons en termes de mettre au péché.
Et quelles sont vos propositions, Roger?
S'il vous plaît.
Vos propositions pour lutter contre la corruption.
Et voilà, les propositions. Bon, je voulais faire l'analyse des propositions. Je voulais dire ceci. À quatre niveaux, il y a quatre niveaux. À ces quatre niveaux, les solutions sont suivantes. D'abord, il y a le niveau familial. Il y a le niveau de l'école.
Oui.
Il y a le niveau des entreprises, ils expliquent, il y a le niveau de la justice et le niveau de l'État.
Mm-hmm.
Donc, cinq niveaux. À tous ces cinq niveaux que moi j'analyse, il faut d'abord que les chefs soient des modèles, c'est-à-dire rigoureux d'abord envers eux-mêmes, c'est-à-dire les chefs de famille, les chefs des écoles, les chefs des entreprises,
mm-hmm.
les chefs de la justice, les chefs de les ceux qui dirigent l'État, à tous les niveaux, gouverneurs, ministres, députés, sénateurs, tous ces gens-là.
Oui.
Donc, qu'ils soient des modèles. Qu'ils soient des modèles rigoureux d'abord envers eux-mêmes.
Oui.
Avant de demander la même rigueur aux collaborateurs. Alors, c'est pour cela, pourquoi et comment ils seront des modèles, c'est les lois qui sont appliquées. Les lois, il y a deux types de lois. Vous avez les lois des hommes, c'est-à-dire la constitution, les règles que nous mettons en place, et il y a la loi de Dieu. Bon. Ceux qui, on peut appliquer les deux pour ceux qui croient en Dieu, ou l'un ou l'autre pour ceux qui ne croient pas en Dieu.
Oui.
Mais dans tous les cas, cette application doit être suivie d'une sanction. Sanction négative ou sanction positive. Moi-même qui vous parle, j'ai fait une expérience dans une entreprise privée, au sommet de l'entreprise. Aujourd'hui, je suis en politique. Et je compare, c'est vraiment la nuit, le jour et la nuit, pour les deux. Donc, j'ai fait une carrière dans une grande entreprise privée, de bas en haut, et je suis sorti, je suis administrateur honoraire, hein, et les règles étaient très bien appliquées. Les sanctions négatives appliquées quand il le faut, positives, promotion et gratification quand il le faut.
Oui.
Et aujourd'hui, je suis en politique, c'est le jour et la nuit. Donc, c'est pour vous dire que les chefs d'abord, au niveau de la famille, au niveau de l'école, au niveau de l'entreprise, au niveau de la justice, au niveau de l'État, à divers niveaux,
oui.
soient des modèles.
Merci beaucoup.
Nous avons envers eux-mêmes,
oui.
on a demandé de la valeur.
Roger,
conditions sociales.
Roger, Roger, s'il vous plaît, Roger.
C'est vrai.
Oui, Roger, nous avons, vous avez été assez long, vous avez donné une réflexion assez forte, mais nous courons derrière le temps, hein, nous courons derrière le temps. Nous avons notre série encore d'auditeurs qui sont en train de patienter à pouvoir aussi participer et à donner leurs avis. Pour vous, Roger, vous pensez qu'il faudrait une rigueur, hein, donc au niveau de la famille, au niveau des écoles, de la justice, de l'État, et aussi qu'on puisse appliquer, hein, oui. qu'on puisse appliquer la loi des hommes et de Dieu avec des sanctions. Merci beaucoup, Roger, d'être intervenu à notre émission. Nous allons retourner à notre invité. Il s'agit du professeur Albert Mouluma. Professeur, vous avez suivi nos auditeurs.
Oui, merci beaucoup.
Mm-hmm.
D'abord, il faut noter que la justice seule ne peut pas endiguer le problème de la corruption. Je suis très intéressé par le dernier intervenant qui a situé à tous les niveaux la collaboration. Il faut, pour lutter contre la corruption, il faut que tout le monde s'engage, à partir du sommet jusqu'à la base. Et je proposais qu'on ait un organe de lutte contre la corruption. C'est très important parce que les gens réduit la lutte contre la corruption au niveau de la justice. Non, la justice doit faire la répression. Mais il y a l'éducation, la répression qu'on doit. Cette éducation, c'est au niveau de l'école. Il faut, je parlais des causes institutionnelles. Ces causes institutionnelles, c'est-à-dire au niveau de la culture, on doit essayer un peu de changer la mentalité. Mais ce changement de mentalité ne peut se faire qu'au niveau des écoles. Il faut que le civisme soit renforcé. Et s'il y a des problèmes dans notre pays, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour du pays. Les gens travaillent, ils sont égoïstes. Les gens travaillent, chacun, il veut avoir un gros salaire sans penser aux autres. La justice sociale n'existe pas. Alors, tous ces problèmes-là, c'est au niveau de l'école. Il faut que l'école façonne l'homme de demain. Lorsque l'homme est façonné, je crois qu'au niveau du primaire, au niveau du secondaire, au niveau de l'université, cet homme qui doit avoir une conscience pour l'amour de son pays, et ce n'est qu'à ce niveau-là qu'on peut arriver à avoir un pays où il y a la réduction de la corruption. Mais lorsque quelqu'un ne sait pas amender, quelqu'un s'illustre toujours à la corruption, c'est en ce moment-là il faut le déférer devant la justice. Il faut une sanction punitive, il faut une sanction exemplaire. Mais la sanction ne doit pas être que négative. Il y a des sanctions aussi positives. Donc, les gens qui sont des modèles au niveau des entreprises, au niveau des universités, au niveau des étudiants, à tous les niveaux, les gens qui s'illustrent. Par exemple, il y a une maman à Lufida qui venait, n'est-ce pas, de dénoncer la situation de l'Indien là. Mais cette maman-là, ça c'est un exemplaire.
Oui, professeur, nous allons prendre une autre série d'auditeurs.
Ok, merci.
Parole aux auditeurs.
Nous avons l'honorable Martin Mkonkole qui est au bout du fil. Bonjour, honorable.
Ah, bonjour, madame.
Oui, honorable, aujourd'hui nous parlons de la lutte contre la corruption. Quelles sont vos propositions pour permettre une lutte assez efficace de la corruption dans notre pays?
Madame, nous vous remercions pour cette opportunité que vous nous donnez. Lutter contre la corruption, ça doit être parmi les principes qui sont à la base de la restauration de l'autorité de l'État, de la discipline et du civisme patriotique. Vous savez, madame, dans notre pays, si la lutte contre la corruption est devenue comme un slogan, c'est parce que les différentes institutions de la République, chacune d'elles ne fait pas son travail conformément à ses prérogatives et à ses au texte qui prévoit le fonctionnement de chacune des institutions.
Oui. Et qu'est-ce
il faut que la justice dans notre pays fasse son travail. Est-ce qu'on donne des moyens à la justice de bien faire son travail? Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que la justice fasse son travail?
Oui.
Tout ça, ça fait problème. Quand on instaure un système dans le fonctionnement des institutions, on instaure l'intimité comme mode de gestion. Comment, madame, les gens peuvent ne pas tomber dans la corruption? Quand on n'arrive pas à bien payer les fonctionnaires, comment les gens ne peuvent pas tomber dans la corruption? Donc, il y a un principe de morale politique qui doit être imprégné dans la philosophie de l'homme congolais, afin que chacun sache dès le bas âge, il y a une certaine éthique, il y a un type de morale que nous devons avoir.
Oui, honorable, est-ce que pour l'instant en RDC, est-ce que c'est une question d'homme ou bien une question de système?
Madame, il y a un problème, c'est un problème de système et un problème d'homme, les deux à la fois, madame. Est-ce que le système actuel dans notre pays, c'est un système qui favorise réellement la restauration de l'autorité de l'État? Est-ce que c'est un système qui favorise réellement la prise en charge de l'homme, chacun dans ce qu'il peut faire comme travail, afin qu'il retrouve son compte?
Mm-hmm.
C'est aussi un problème d'homme, parce que nous avons beaucoup de responsables qui sont à la disposition, à des hautes responsabilités, mais qui ne savent pas, madame, respecter les principes de la sanction.
Merci beaucoup.
C'est la base de ça.
Oui, merci beaucoup, honorable, pour votre participation à cette émission. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Parole aux auditeurs. Professeur Albert Mouma, dans la plupart des interventions de nos auditeurs, ils reviennent sur l'impulsion qui doit venir des autorités. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela?
Oh oui, je le dis, parce que j'ai suivi bon des critiques pour la convocation du Forum national que le gouvernement ne pouvait pas organiser. Non, l'impulsion, c'est le gouvernement. Le gouvernement qui est le moteur, qui constitue l'élément important. Donc, le gouvernement doit convoquer, et maintenant la société civile doit s'approprier de ces résolutions.
Mmh.
Et je crois que les résolutions qui ont été prises sont des résolutions qui doivent être ressenties partout, parce que c'est tout le monde qui est impliqué, que ce soit au niveau des familles, au niveau des églises, au niveau des écoles, au niveau des entreprises, un peu partout. Donc, tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour arriver donc à instaurer ce qu'on appelle la transparence.
Oui.
Donc, ce n'est pas un problème d'un individu seul, mais c'est tout le monde. Ce n'est pas un problème d'une institution seule, qui est le gouvernement. Il y a toutes les institutions du pays, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau de la justice, à toutes les institutions du pays, que ce soit au niveau de la présidence de la République. Donc, toutes les institutions du pays doivent mettre la main dans la pâte.
Oui.
Pour donner une impulsion pour la lutte contre la corruption. Mais j'insiste sur le modèle. Les modèles doivent être trouvés un peu partout, dans tous les secteurs de la vie nationale. Il faut qu'on encourage les modèles.
Mm-hmm.
Il n'y a pas que la corruption partout, mais il y a des gens quand même qui se démènent nuit et jour.
Oui.
Même au niveau des hôpitaux, un peu partout. Alors ces gens-là, les professeurs d'université, ce n'est pas tout le monde qui est trempé. Il y a des gens qui se démènent, qui publient, qui
oui.
travaillent. Il faut que ça marche.
Merci.
Mais ces gens ne sont pas encouragés.
Merci beaucoup, professeur, d'avoir participé à cette émission. Nous avons aussi un autre auditeur. Il s'agit de José Kalingay qui nous écrit de Madrid, en Espagne. Il dit que la corruption existe partout dans le monde, mais en RDC, il faut mettre fin à l'impunité, à la justice sélective et améliorer le social du Congolais en général. Encore une fois, professeur, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation et aussi nous disons merci à vous, auditeurs, pour votre participation active et nombreuse à l'émission. N'oubliez surtout pas notre rendez-vous de demain avec Parole aux auditeurs et demain notre thème sera axé sur les préparatifs des fêtes de fin d'année. Une seule question, comment préparez-vous ces fêtes en famille ou dans vos milieux respectifs? Réagissez dès à présent par Internet à l'adresse pa@radiocapi.net. Merci à toute l'équipe de Parole aux auditeurs pour la réalisation de l'émission. Il s'agit de Titine Koutou, d'Étienne Kalema, sous la supervision de Ben Kabamba. Et aussi, merci aux techniciens. Restez branchés sur Radio Capi pour la suite de nos programmes.